Livre troisième. L'enfant dans l'ombre. Chapitre 1er. Le Chess Hill. La tempête n'était pas moins intense sur terre que sur mer. Le même déchaînement farouche s'était fait autour de l'enfant abandonné. Le faible et l'innocent deviennent ce qu'ils peuvent dans la dépense de colère inconsciente que font les forces aveugles. L'ombre ne discerne pas, et les choses n'ont point les clémences qu'on leur suppose. Il y avait sur terre très peu de vent. Le froid avait on ne sait quoi d'immobile. Aucun grêlon. L'épaisseur de la neige tombante était épouvantable. Les grêlons frappent, harcèlent, meurtrissent, assourdissent, écrasent. Les flocons sont pires. Le flocon inexorable et doux fait son œuvre en silence. Si on le louche, il fond. Il est pur comme l'hypocrite et candide. C'est par des blancheurs lentement superposées que le flocon arrive à l'avalanche et le fourbe au crime. L'enfant avait continué d'avancer dans le brouillard. Le brouillard est un obstacle mou, de là des périls. Il cède et persiste. Le brouillard, comme la neige, est plein de trahisons. L'enfant, étrange lutteur au milieu de tous ces risques, avait réussi à atteindre le bas de la descente et s'était engagé dans le Chess Hill. Il était, sans le savoir, sur un isthme ayant des deux côtés l'océan et, ne pouvant faire fausse route, dans cette brume, dans cette neige et dans cette nuit, sans tomber, droite dans l'eau profonde du golfe, à gauche dans la vague violente de la haute mer. Il marchait, ignorant, entre deux abîmes. L'isthme de Portland était à cette époque singulièrement âpre et rude. Il n'a plus rien aujourd'hui de sa configuration d'alors. Depuis qu'on a eu l'idée d'exploiter la pierre de Portland en ciment romain, toute la roche a subi un remaniement qui a supprimé l'aspect primitif. On y trouve encore le calcaire lia, le schiste, et le trappe sortant des bancs de conglomérat comme la dent de la gencive. Mais la pioche a tronqué et nivelé tous ces pylons hérissés et scabreux où venaient se percher hideusement les ossifrages. Il n'y a plus de cime où puissent se donner rendez-vous les labes et les stercoraires qui, comme les envieux, aiment à souiller les sommets. On chercherait en vain le haut monolithe nommé Godolphin, vieux mot gallois qui signifie « aigle blanche ». On cueille encore, l'été, dans ces terrains forés et troués comme l'éponge, du romarin, du pouliot, de l'hysope sauvage, du fenouil de mer, qui, infusé, donne un bon cordial. Et cette herbe pleine de nœuds qui sort du sable et dont on fait de la natte. Mais on n'y ramasse plus ni ambre gris, ni étain noir, ni cette triple espèce d'ardoise, l'une verte, l'autre bleue, l'autre couleur de feuilles de sauge. Les renards, les blaireaux, les loutres, les martres s'en sont allés. Il y avait dans ces escarpements de Portland, comme à la pointe de Cornouailles, des chamois. Il n'y en a plus. On pêche encore, dans de certains creux, des plis et des pilchards, mais les saumons, effarouchés, ne remontent plus la houée entre le Saint-Michel et la Noël pour y pondre leurs œufs. On ne voit plus là, comme au temps d'Élisabeth, de ces vieux oiseaux inconnus, gros comme des éperviers, qui coupaient une pomme en deux et n'en mangeaient que le pépin. On n'y voit plus de ces corneilles à bec jaune, Corniche hook en anglais, pyrocarax en latin, qui avait la malice de jeter sur les toits de chaume des sarments allumés. On n'y voit plus l'oiseau sorcier fulmar, émigré de l'archipel d'Écosse, et jetant par le bec une huile que les insulaires brûlaient dans leurs lampes. On n'y rencontre plus le soir, dans les ruissellements du jusant, l'antique Nates légendaire au pied de porc et au cri de veau. La marée n'échoue plus sur ses sables l'otarie moustachue, aux oreilles enroulées, aux mâchelières pointues, se traînant sur ses pattes sans ongles. Dans ce Portland, aujourd'hui méconnaissable, il n'y a jamais eu de rossignol à cause du manque de forêt. Mais les faucons, les cygnes et les oies de mer se sont envolés. Les moutons de Portland, à présent, ont la chair grasse et la laine fine. Les rares brebis qui paissaient, il y a 2 siècles, cette herbe salée, étaient petites et coriaces et avaient la toison bourrue, comme il sied à des troupeaux celtes menés jadis par des bergers mangeurs d'ail qui vivaient 100 ans et qui, à 1/2 mile de distance, perçaient des cuirasses avec leurs flèches d'une aune de long. Terre inculte fait laine rude. Le Chess Hill d'aujourd'hui ne ressemble en rien au Chess Hill d'autrefois, tant il a été bouleversé par l'homme et par ces furieux vents de sorlingue qui rongent jusqu'aux pierres. Aujourd'hui, cette langue de terre porte un railway qui aboutit un joli échiquier de maison neuve, Chesilton, et il y a une Portland Station. Les wagons roulent ou rampaient les phoques. L'isthme de Portland, il y a 200 ans, était un dos d'âne de sable, avec une épine vertébrale de rocher. Le danger pour l'enfant changea de forme. Ce que l'enfant avait à craindre dans la descente, c'était de rouler au bas de l'escarpement. Dans l'isthme, ce fut de tomber dans des trous. Après avoir eu affaire au précipice, il eut affaire à la fondrière. Tout est chausse-trappe au bord de la mer. La roche est glissante, la grève est mouvante, les points d'appui sont des embûches. On est comme quelqu'un qui met le pied sur des vitres. Tout peut brusquement se fêler sous vous. Fêlure par où l'on disparaît. L'océan a des 3e dessous, comme un théâtre bien machiné. Les longues arêtes de granit, auxquelles s'adosse le double versant d'un isthme, sont d'un abord malaisé. On y trouve difficilement ce qu'on appelle en langage de mise en scène des praticables. L'homme n'a aucune hospitalité à attendre de l'océan, pas plus du rocher que de la vague. L'oiseau et le poisson seuls sont prévus par la mer. Les isthmes particulièrement sont dénudés et hérissés. Le flot qui les use et les mine des 2 côtés les réduit à leur plus simple expression. Partout, des reliefs coupants, des crêtes, des scies, d'affreux haillons de pierre déchirés, des entrebâillements dentelés comme la mâchoire multicuspide d'un requin, des casse-coups de mousse mouillée, de rapides coulées de roches aboutissant à l'écume. Qui entreprend de franchir un isthme rencontre à chaque pas des blocs difformes, gros comme des maisons, figurant des tibias, des omoplates, des fémurs, anatomie hideuse des rocs écorchés. Ce n'est pas pour rien que ces stries des bords de la mer se nomment côtes. Le piéton se tire comme il peut de ce pêle-mêle de débris, cheminer à travers l'ossature d'une énorme carcasse. Tel est à peu près ce labeur. Mettez un enfant dans ce travail d'Hercule. Le grand jour eût été utile. Il faisait nuit. Un guide eût été nécessaire. Il était seul. Toute la vigueur d'un homme n'eût pas été de trop. Il n'avait que la faible force d'un enfant. À défaut de guide, un sentier lui eût aidé. Il n'y avait point de sentier. D'instinct, il évitait le chéneau aigu des rochers et suivait la plage le plus qu'il pouvait. C'est là qu'il rencontrait les fondrières. Les fondrières se multipliaient devant lui sous trois formes, la fondrière d'eau, la fondrière de neige, la fondrière de sable. La dernière est la plus redoutable, c'est l'enlisement. Savoir ce que l'on affronte est alarmant, mais l'ignorer est terrible. L'enfant combattait le danger inconnu. Il était tâton dans quelque chose qui était peut-être la tombe. Nulle hésitation. Il tournait les rochers, évitait les crevasses, devinait les pièges, subissait les méandres de l'obstacle, mais avançait. Ne pouvant aller droit, il marchait ferme. Il reculait au besoin, avec énergie. Il savait s'arracher à temps de la glu hideuse des sables mouvants. Il secouait la neige de dessus lui. Il entra plus d'une fois dans l'eau jusqu'aux genoux. Dès qu'il sortait de l'eau, ses guenilles mouillées étaient tout de suite gelées par le froid profond de la nuit. Il marchait rapide dans ses vêtements roidis. Pourtant, il avait eu l'industrie de conserver sèche et chaude sur sa poitrine sa vareuse de matelot. Il avait toujours bien faim. Les aventures de l'abîme ne sont limitées en aucun sens. Tout y est possible, même le salut. L'issue est invisible, mais trouvable. Comment l'enfant, enveloppé d'une étouffante spirale de neige, perdu sur cette levée étroite entre les deux gueules du gouffre, n'y voyant pas, parvint-il à traverser l'isthme? C'est ce que lui-même n'aurait pu dire. Il avait glissé, grimpé, roulé, cherché, marché, persévéré. Voilà tout. Secret de tous les triomphes. Au bout d'un peu moins d'une heure, il sentit que le sol remontait. Il arrivait à l'autre bord. Il sortait du Chess Hill. Il était sur la terre ferme. Le pont qui relie aujourd'hui Sandford Cass à Small Smooth Sound n'existait pas à cette époque. Il est probable que dans son tâtonnement intelligent, il avait remonté jusque vis-à-vis White Regis, où il y avait alors une langue de sable, vraie chaussée naturelle, traversant l'East Fleet. Il était sauvé de l'isthme, mais il se retrouvait face à face avec la tempête, avec l'hiver, avec la nuit. Devant lui, se développait de nouveau la sombre perte de vue des plaines. Il regarda à terre, cherchant un sentier. Tout à coup, il se baissa. Il venait d'apercevoir dans la neige quelque chose qui lui semblait une trace. C'était une trace, en effet, la marque d'un pied. La blancheur de la neige découpait nettement l'empreinte et la faisait très visible. Il la considéra. C'était un pied nu, plus petit qu'un pied d'homme, plus grand qu'un pied d'enfant. Probablement le pied d'une femme. Au-delà de cette empreinte, il y en avait une autre, puis une autre. Les empreintes se succédaient à la distance d'un pas et s'enfonçaient dans la plaine vers la droite. Elles étaient encore fraîches et couvertes de peu de neige. Une femme venait de passer là. Cette femme avait marché et s'en était allée dans la direction même où l'enfant avait vu des fumées. L'enfant, l'œil fixé sur les empreintes, se mit à suivre ce pas. Chapitre 2. Effet de neige. Il chemina un certain temps sur cette piste. Par malheur, les traces étaient de moins en moins nettes. La neige tombait dense et affreuse. C'était le moment où l'ourque agonisait sous cette même neige dans la haute mer. L'enfant, en détresse comme le navire, mais autrement, n'ayant dans l'inextricable entrecroisement d'obscurité qui se dressait devant lui d'autres ressources que ce pied marqué dans la neige, s'attachait à ce pas comme au fil du dédale. Subitement, soit que la neige eût fini par l'éniveler, soit pour toute autre cause, les empreintes s'effacèrent. Tout redevint plan, uni, ras, sans une tache, sans un détail. il n'y eut plus qu'un drap blanc sur la terre et un drap noir sur le ciel. C'était comme si la passante s'était envolée. L'enfant aux abois se pencha et chercha, en vain. Comme il se relevait, il eut la sensation de quelque chose d'indistinct qu'il entendait, mais qu'il n'était pas sûr d'entendre. Cela ressemblait à une voix, à une haleine, à de l'ombre. C'était plutôt humain que bestial, et plutôt sépulcral que vivant. C'était du bruit, mais du rêve. Il regarda et ne vit rien. La large solitude nue et livide était devant lui. Il écouta. Ce qu'il avait cru entendre s'était dissipé. Peut-être n'avait-il rien entendu. Il écouta encore. Tout faisait silence. Il y avait de l'illusion dans toute cette brume. Il se remit en marche. En marche, au hasard, n'ayant plus désormais ce pas pour le guider. Il s'éloignait à peine que le bruit recommença. Cette fois, il ne pouvait douter. C'était un gémissement, presque un sanglot. Il se retourna, il promena ses yeux dans l'espace nocturne. Il ne vit rien. Le bruit s'éleva de nouveau. Si les limbes peuvent crier, c'est ainsi qu'elles crient. Rien de pénétrant, de poignant et de faible comme cette voix, car c'était une voix. Cela venait d'une âme. Il y avait de la palpitation dans ce murmure. Pourtant, cela semblait presque inconscient. C'était quelque chose comme une souffrance qui appelle, mais sans savoir qu'elle est une souffrance et qu'elle fait un appel. Ce cri, premier souffle peut-être dernier soupir, était à égale distance du râle qui clôt la vie et du vagissement qui l'ouvre. Cela respirait, cela étouffait, cela pleurait. Sombre supplication dans l'invisible. L'enfant fixa son attention partout, loin, près, au fond, en haut, en bas. Il n'y avait personne. Il n'y avait rien. Il prêta l'oreille. La voix se fit entendre encore. Il l'aperçut distinctement. Cette voix avait un peu du bêlement d'un agneau. Alors il eut peur et songea à fuir. Le gémissement reprit. C'était la quatrième fois. Il était étrangement misérable et plaintif. On sentait qu'après ce suprême effort, plutôt machinal que voulu, ce cri allait probablement s'éteindre. C'était une réclamation expirante, instinctivement faite à la quantité de secours qui est en suspens dans l'étendue. C'était on ne sait quel bégaiement d'agonie adressé à une providence possible. L'enfant s'avança du côté d'où venait la voix. Il ne voyait toujours rien. Il avança encore, épiant. La plainte continuait. D'inarticulée et confuse qu'elle était, elle était devenue claire et presque vibrante. L'enfant était tout près de la voix. Mais où était-elle? Il était près d'une plainte. Le tremblement d'une plainte dans l'espace passait à côté de lui. Un gémissement humain flottant dans l'invisible, voilà ce qu'il venait de rencontrer. Telle était du moins son impression, trouble comme le profond brouillard où il était perdu. Comme il hésitait entre un instinct qui le poussait à fuir et un instinct qui lui disait de rester, il aperçut dans la neige ses pieds, à quelques pas devant lui, une sorte d'ondulation de la dimension d'un corps humain, une petite éminence basse, longue et étroite, pareille au renflement d'une fosse, une ressemblance de sépulture dans un cimetière qui serait blanc. En même temps, la voix cria. C'est de là-dessous qu'elle sortait. L'enfant se baissa, s'accroupit devant l'ondulation, et de ses deux mains, on commença le déblaiement. Il vit se modeler, sous la neige qui l'écartait, une forme. Et tout à coup, sous ses mains, dans le creux qu'il avait fait, apparut une face pâle. Ce n'était point cette face qui criait. Elle avait les yeux fermés et la bouche ouverte, mais pleine de neige. Elle était immobile. Elle ne bougea pas sous la main de l'enfant. L'enfant, qui avait l'onglet au doigt, tressaillit en touchant le froid de ce visage. C'était la tête d'une femme. Les cheveux épars étaient mêlés à la neige. Cette femme était morte. L'enfant se remit à écarter la neige. Le cou de la morte se dégagea. Puis le haut, le torse, dont on voyait la chair sous des haillons. Soudainement, il sentit sous son tâtonnement un mouvement faible. C'était quelque chose de petit qui était enseveli et qui remuait. L'enfant ôta vivement la neige et découvrit un misérable corps d'avorton, chétif, blême de froid, encore vivant, nu sur le sein nu de la morte. C'était une petite fille. Elle était emmaillotée, mais de pas assez de guenilles, et en se débattant, elle était sortie de ses loques. Sous elle, ses pauvres membres maigres et son haleine au-dessus d'elle avaient un peu fait fondre la neige. Une nourrice lui eût donné 5 ou 6 mois, mais elle avait 1 an peut-être, car la croissance dans la misère subit de navrantes réductions qui vont parfois jusqu'au rachitisme. Quand son visage fut à l'air, elle poussa un cri, continuation de son sanglot de détresse. Pour que la mère n'eût pas entendu ce sanglot, il fallait qu'elle fût bien profondément morte. L'enfant prit la petite dans ses bras. La mère roidie était sinistre. Une irradiation spectrale sortait de cette figure. La bouche béante et sans souffle semblait commencer, comme dans la langue indistincte de l'ombre, la réponse aux questions faites aux morts dans l'invisible. La réverbération blafarde des plaines glacées était sur ce visage. On voyait le front, jeune sous les cheveux bruns, le froncement presque indigné des sourcils, les narines serrées, les paupières closes, les cils collés par le givre, et du coin des yeux au coin des lèvres, le pli profond des pleurs. La neige éclairait la morte. L'hiver et le tombeau ne se nuisent pas. Le cadavre est le glaçon de l'homme. La nudité des seins était pathétique. Ils avaient servi. Ils avaient la sublime flétrissure de la vie donnée par l'être à qui la vie manque. Et la majesté maternelle y remplaçait la pureté virginale. À la pointe d'une des mamelles, il y avait une perle blanche. C'était une goutte de lait, gelée. Disons-le tout de suite, dans ces plaines où le garçon perdu passait à son tour, une mendiante allaitant son nourrisson et cherchant elle aussi un gîte, c'était, il y avait peu d'heures, égarée. Transie, elle était tombée sous la tempête et n'avait pu se relever. L'avalanche l'avait couverte. Elle avait, le plus qu'elle avait pu, serré sa fille contre elle et elle avait expiré. La petite fille avait essayé de téter ce marbre. Sombre confiance voulue par la nature, car il semble que le dernier allaitement soit possible à une mère, même après le dernier soupir. Mais la bouche de l'enfant n'avait pu trouver le sein, où la goutte de lait, volée par la mort, s'était glacée. Et sous la neige, le nourrisson, plus accoutumé au berceau qu'à la tombe, avait crié. Le petit abandonné avait entendu la petite agonisante. Il l'avait déterrée, il l'avait prise dans ses bras. Quand la petite se sentit dans des bras, elle cessa de crier. Les deux visages des deux enfants se touchèrent. Et les lèvres violettes du nourrisson se rapprochèrent de la joue du garçon, comme d'une mamelle. La petite fille était presque au moment où le sang coagulé va arrêter le cœur. Sa mère lui avait déjà donné quelque chose de sa mort. Le cadavre se communique, c'est un refroidissement qui se gagne. La petite avait les pieds, les mains, les bras, les genoux, comme paralysés par la glace. Le garçon sentit ce froid terrible. Il avait sur lui un vêtement sec et chaud, sa vareuse. Il posa le nourrisson sur la poitrine de la morte, ôta sa vareuse, en enveloppa la petite fille, ressaisit l'enfant. Et, presque nu maintenant, sous les bouffées de neige que soufflait la bise, en portant la petite dans ses bras, il se remit en route. La petite ayant réussi à retrouver la joue du garçon, y appuya sa bouche et, réchauffée, s'endormit. Premier baiser de ces deux âmes dans les ténèbres. La mère demeura gisante, le dos sur la neige, la face vers la nuit. Mais au moment où le petit garçon se dépouilla pour vêtir la petite fille, peut-être du fond de l'infini où elle était, la mère le vit-elle. Chapitre 3. Toute voix douloureuse se complique d'un fardeau. Il y avait un peu plus de 4 heures que l'Ourcq s'était éloigné de la crique de Portland, laissant sur le rivage ce garçon. Depuis ces longues heures qu'il était abandonné et qu'il marchait devant lui, il n'avait encore fait, dans cette société humaine où peut-être il allait entrer, que 3 rencontres, un homme, une femme et un enfant. Un homme, cet homme sur la colline, une femme, cette femme dans la neige, un enfant, cette petite fille qu'il avait dans les bras. Il était exténué de fatigue et de faim. Il avançait plus résolument que jamais, avec de la force de moins et un fardeau de plus. Il était maintenant à peu près sans vêtements. Le peu de haillons qui lui restait, durci par le givre, était coupant comme du verre et lui écorchait la peau. Il se refroidissait. Mais l'autre enfant se réchauffait. Ce qu'il perdait n'était pas perdu, elle le regagnait. Il constatait cette chaleur qui était pour la pauvre petite une reprise de vie. Il continuait d'avancer. De temps en temps, tout en la soutenant bien, il se baissait et d'une main prenait de la neige à poignée et en frottait ses pieds pour les empêcher de geler. Dans d'autres moments, ayant la gorge en feu, il se mettait dans la bouche un peu de cette neige et la suçait, ce qui trompait une minute sa soif, mais la changeait en fièvre. Soulagement qui était une aggravation. La tourmente était devenue informe à force de violence. Les déluges de neige sont possibles, c'en était un. Ce paroxysme maltraitait le littoral en même temps qu'il bouleversait l'océan. C'était probablement l'instant où l'Ourcq éperdu se disloquait dans la bataille des écueils. Il traversa sous cette bise, marchant toujours vers l'est de larges surfaces de neige. Il ne savait quelle heure il était. Depuis longtemps, il ne voyait plus de fumée. Ces indications dans la nuit sont vite effacées. D'ailleurs, il était plus que l'heure où les feux sont éteints. Enfin, peut-être s'était-il trompé, et il était possible qu'il n'y eût point de ville ni de village du côté où il allait. Dans le doute, il persévérait. 2 ou 3 fois, la petite cria. Alors, il imprimait à son allure un mouvement de bercement. Elle s'apaisait et se taisait. Elle finit par se bien endormir et d'un bon sommeil. Il la sentait chaude tout en grelottant. Il resserrait fréquemment les plis de la vareuse autour du cou de la petite afin que le givre ne s'introduisît pas par quelque ouverture et qu'il n'y eût aucune fuite de neige fondue entre le vêtement et l'enfant. La plaine avait des ondulations. Aux déclivités où elle s'abaissait, la neige amassée par le vent dans les plis de terrain était si haute pour lui, petit, qu'il y enfonçait presque tout entier et il fallait marcher à demi enterré. Il marchait, poussant la neige des genoux. Le ravin franchi, il parvenait à des plateaux balayés par la bise où la neige était mince. Là, il trouvait le verglas. La laine tiède de la petite fille effleurait sa joue, le réchauffait un moment et s'arrêtait et se gelait dans ses cheveux, où elle faisait un glaçon. Il se rendait compte d'une complication redoutable. Il ne pouvait plus tomber. Il sentait qu'il ne se relèverait pas. Il était brisé de fatigue, et le plomb de l'ombre, lu comme la femme expirée, appliqué sur le sol. Et la glace l'eût soudé vivant à la terre. Il avait dévalé sur des pentes de précipices et s'en était tiré. Il avait trébuché dans des trous et en était sorti. Désormais, une simple chute, c'était la mort. Un faux pas ouvrait la tombe. Il ne fallait pas glisser. Il n'aurait plus la force même de se remettre sur ses genoux. Or, le glissement était partout autour de lui. Tout était givre et neige durcie. La petite qu'il portait lui faisait la marche affreusement difficile. Non seulement c'était un poids, excessif pour sa lassitude et son épuisement, mais c'était un embarras. Elle lui occupait les deux bras. Et à qui chemine sur le verglas, les deux bras sont un balancier naturel et nécessaire. Il fallait se passer de ce balancier. Il s'en passait et marchait, ne sachant que devenir sous son fardeau. Cette petite était la goutte qui faisait déborder le vase de détresse. Il avançait, oscillant à chaque pas comme sur un tremplin, et accomplissant, pour aucun regard, des miracles d'équilibre. Peut-être pourtant, redisons-le, était-il suivi en cette voie douloureuse par des yeux ouverts dans les lointains de l'ombre, l'œil de la mère et l'œil de Dieu. Il chancelait, chavirait, se raffermissait, avait soin de l'enfant, lui remettait du vêtement sur elle, lui couvrait la tête, chavirait encore, avançait toujours, glissait, puis se redressait. Le vent avait la lâcheté de le pousser. Il faisait vraisemblablement beaucoup plus de chemin qu'il ne fallait. Il était, selon toute apparence, dans ces plaines où s'est établie plus tard la Binleaves Farm, entre ce qu'on nomme maintenant Spring Gardens et Personage House, métairies et cottages à présent, friches alors. Souvent moins d'un siècle sépare une steppe d'une ville. Subitement, une interruption s'étant faite dans la bourrasque glaciale qui l'aveuglait, il aperçut à peu de distance devant lui un groupe de pignons et de cheminées mis en relief par la neige. Le contraire d'une silhouette, une ville dessinée en blanc sur l'horizon noir, quelque chose comme ce qu'on appellerait aujourd'hui une épreuve négative. Des toits, des demeures, un gîte! Il était donc quelque part! Il sentit l'ineffable encouragement de l'espérance. La vigie d'un navire égaré criant « Terre !» Ah, de ses émotions, il pressa le pas. Il touchait donc enfin à des hommes. Il allait donc arriver à des vivants. Plus rien à craindre. Il avait en lui cette chaleur subite, la sécurité. Ce dont il sortait était fini. Il n'y aurait plus de nuit désormais, ni d'hiver, ni de tempête. Il lui semblait que tout ce qu'il y a de possible dans le mal était maintenant derrière lui. La petite n'était plus un poids, il courait presque. Son œil était fixé sur ses toits, la vie était là, il ne les quittait pas du regard. Un mort regarderait ainsi ce qui lui apparaîtrait par l'entrebâillement d'un couvercle de tombe. C'étaient les cheminées dont il avait vu les fumées. Aucune fumée n'en sortait. Il eut vite fait d'atteindre les habitations. Il parvint à un faubourg de ville qui était une rue ouverte. À cette époque, le barrage des rues, la nuit, tombait en désuétude. La rue commençait par deux maisons. Dans ces deux maisons, on n'apercevait aucune chandelle ni aucune lampe. Non plus que dans toute la rue, ni dans toute la ville, aussi loin que la vue pouvait s'étendre. La maison de droite était plutôt un toit qu'une maison. Rien de plus chétif. La muraille était de torchis et le toit de paille. Il y avait plus de chaume que de mur. Une grande ortie, née au pied du mur, touchait au bord du toit. Cette masure n'avait qu'une porte, qui semblait une chatière, et qu'une fenêtre, qui était une lucarne. Le tout fermé. À côté, une soue à porc habitée indiquait que la chaumière était habitée aussi. La maison de gauche était large, haute, toute en pierre, avec toit d'ardoise, fermée aussi. C'était chez le riche vis-à-vis de chez le pauvre. Le garçon n'hésita pas. Il alla à la grande maison. La porte à deux battants, massive damier de chêne à gros clous, était de celles derrière lesquelles on devine une robuste armature de barres et de serrures. Un marteau de fer y pendait. Il souleva le marteau avec quelque peine, car ses mains engourdies étaient plutôt des moignons que des mains. Il frappa un coup. On ne répondit pas. Il frappa une seconde fois et deux coups. Aucun mouvement ne se fit dans la maison. Il frappa une troisième fois. Rien. Il comprit qu'on dormait ou qu'on ne se souciait pas de se lever. Alors il se tourna vers la maison pauvre. Il prit à terre dans la neige un galet et heurta à la porte basse. On ne répondit pas. Il se haussa sur la pointe des pieds et cogna de son caillou la lucarne, assez doucement pour ne point casser la vitre, assez fort pour être entendu. Aucune voix ne s'éleva, aucun pas ne remua, aucune chandelle ne s'alluma. Il pensa que là aussi, on ne voulait point se réveiller. Il y avait dans l'hôtel de pierre et dans le logis de chaume la même surdité aux misérables. Le garçon se décida à pousser plus loin et pénétra dans le détroit de maison qui se prolongeait devant lui, si obscur qu'on eût plutôt dit l'écart de deux falaises que l'entrée d'une ville. Chapitre 4. Autre forme du désert. C'est dans le Weymouth qu'il venait d'entrer. Le Weymouth d'alors n'était pas l'honorable et superbe Weymouth d'aujourd'hui. Cet ancien Weymouth n'avait pas, comme le Weymouth actuel, un irréprochable quai rectiligne avec une statue et une auberge en l'honneur de George III. Cela tenait à ce que George III n'était pas né. Par la même raison, on n'avait point encore, au penchant de la verte colline de l'Est, dessiné, à plat sur le sol, au moyen du gazon scalpé et de la craie mise à nu, ce cheval blanc d'un arpent de long, le White Horse portant un roi sur son dos, et tournant, toujours en l'honneur de George III, sa queue vers la ville. Ces honneurs, du reste, sont mérités. George III, ayant perdu dans sa vieillesse l'esprit qu'il n'avait jamais eu dans sa jeunesse, n'est point responsable des calamités de son règne. C'était un innocent. Pourquoi pas des statues ? Le Weymouth, d'il y a 180 ans, était à peu près aussi symétrique qu'un jeu d'onchés brouillé. L'Astaroth des légendes se promenait quelquefois sur la terre, portant derrière son dos une besace dans laquelle il y avait de tout, même des bonnes femmes dans leur maison. Un pêle-mêle de baraques tombées de ce sac du diable donnerait l'idée de ce Weymouth incorrect. Plus, dans les baraques, les bonnes femmes. Il reste comme spécimen de ces logis la maison des musiciens. Une confusion de tanières de bois sculpté et vermoulu, ce qui est une autre sculpture, d'informes bâtisses branlantes à surplomb, quelques-unes piliers s'appuyant les unes sur les autres pour ne pas tomber au vent de mer, et laissant entre elles les espacements exigus d'une voirie tortue et maladroite. Ruelles et carrefours souvent inondés par les marées d'équinoxe, un amoncellement de vieilles maisons grand-mères groupées autour d'une église aïeule, c'était là Weymouth. Weymouth était une sorte d'antique village normand échoué sur la côte d'Angleterre. Le voyageur, s'il entrait à la taverne remplacée aujourd'hui par l'hôtel, au lieu de payer royalement une sole frite et une bouteille de 25 francs, avait l'humiliation de manger pour 2 sous une soupe aux poissons. Fort bonne d'ailleurs. C'était misérable. L'enfant perdu, portant l'enfant trouvé, suivit la première rue. puis la seconde, puis une troisième. Il levait les yeux, cherchant aux étages et sur les toits une vitre éclairée. Mais tout était clos et éteint. Par intervalles, il cognait aux portes. Personne ne répondait. Rien ne fait le cœur de pierre comme d'être chaudement entre deux draps. Ce bruit et ces secousses avaient fini par réveiller la petite. Il s'en apercevait parce qu'il se sentait têter la joue. Elle ne criait pas, croyant à une mère. Il risquait de tourner et de rôder longtemps, peut-être dans les intersections des ruelles de Scambridge, où il y avait alors plus de sculptures que de maisons, et plus de haies d'épines que de logis. Mais il s'engagea à propos dans un couloir, qui existe encore aujourd'hui, près de Trinity Schools. Ce couloir le mena sur une plage qui était un rudiment de quai avec parapet, et à sa droite, il distingua un pont. Ce pont était le pont de la Wey, qui relie Weymouth, Melcombe Regis, et sous les arches duquel le harbour communique avec la Backwater. Weymouth, hameau, était alors le faubourg de Melcombe Regis, site et port. Aujourd'hui, Melcombe Regis est une paroisse de Weymouth. Le village a absorbé la ville. C'est par ce pont que s'est fait ce travail. Les ponts sont de singuliers appareils de succion qui aspirent la population et font quelquefois grossir un quartier riverain aux dépens de son vis-à-vis. Le garçon alla à ce pont, qui, à cette époque, était une passerelle de charpente couverte. Il traversa cette passerelle. Grâce au toit du pont, il n'y avait pas de neige sur le tablier. Ses pieds nus eurent un moment de bien-être en marchant sur ces planches sèches. Le pont franchi, il se trouva dans Melcombe Regis. Il y avait là moins de maisons de bois que de maisons de pierre. Ce n'était plus le bourg, c'était la cité. Le pont débouchait sur une assez belle rue qui était Saint Thomas Street. Il y entra. La rue offrait de hauts pignons taillés et çà et là des devantures de boutiques. Il se remit à frapper aux portes. Il ne lui restait pas assez de force pour appeler et crier. À Melcombe Regis, comme à Weymouth, personne ne bougeait. Un bon double tour avait été donné aux serrures. Les fenêtres étaient recouvertes de leurs volets, comme les yeux de leurs paupières. Toutes les précautions étaient prises contre le réveil, soubresaut désagréable. Le petit errant subissait la pression indéfinissable de la ville endormie. Ces silences de fourmilière paralysée dégagent du vertige. Toutes ces léthargies mêlent leurs cauchemars. Ces sommeils sont une foule, et il sort de ces corps humains gisants une fumée de songes. Le sommeil a de sombres voisinages hors de la vie. La pensée décomposée des endormis flotte au-dessus d'eux, vapeur vivante et morte, et se combine avec le possible qui pense probablement aussi dans l'espace. De là des enchevêtrements. Le rêve, ce nuage, superpose ses épaisseurs et ses transparences, cette étoile, l'esprit. Au-dessus de ses paupières fermées où la vision a remplacé la vue, une désagrégation sépulcrale de silhouettes et d'aspects se dilate dans l'impalpable. Une dispersion d'existences mystérieuses s'amalgame à notre vie par ce bord de la mort qui est le sommeil. Ces entrelacements de larves et d'âmes sont dans l'air. Celui-même qui ne dort pas sent peser sur lui ce milieu plein d'une vie sinistre. La chimère ambiante, réalité devinée, le gêne. L'homme éveillé qui chemine à travers les fantômes du sommeil des autres refoule confusément des formes passantes. Ah, ou croit avoir la vague horreur des contacts hostiles de l'invisible. Et sent à chaque instant la poussée obscure d'une rencontre inexprimable qui s'évanouit. Il y a des effets de forêt dans cette marche, au milieu de la diffusion nocturne des songes. C'est ce qu'on appelle avoir peur, sans savoir pourquoi. Qu'un homme éprouve, un enfant l'éprouve plus encore. Ce malaise de l'effroi nocturne, amplifié par ces maisons spectres, s'ajoutait à tout cet ensemble lugubre sous lequel il luttait. Il entra dans Conyer Lane et aperçut au bout de cette ruelle la Backwater qu'il prit pour l'océan. Il ne savait pas de quel côté était la mer. Il revint sur ses pas, tourna à gauche par Maiden Street et rétrograda jusqu'à St. Alban Row. Là, au hasard et sans choisir, et aux premières maisons vues, il heurta violemment. Ses coups, où il épuisait sa dernière énergie, étaient désordonnés et saccadés, avec des intermittences et des reprises presque irritées. C'était le battement de sa fièvre frappant aux portes. Une voix répondit, celle de l'heure. 3 heures du matin sonnèrent lentement derrière lui, au vieux clocher de Saint-Nicolas. Puis tout retomba dans le silence. Que pas un habitant n'eût même entrouvert une lucarne. Cela peut sembler surprenant. Pourtant, dans une certaine mesure, ce silence s'explique. Il faut dire qu'en janvier 1690, on était au lendemain d'une assez forte peste qu'il y avait eue à Londres et que la crainte de recevoir des vagabonds malades produisait partout une certaine diminution d'hospitalité. On n'entrebâillait pas même sa fenêtre de peur de respirer leur miasme. L'enfant sentit le froid des hommes, plus terrible que le froid de la nuit. C'est un froid qui veut. Il eut ce serrement du cœur découragé qu'il n'avait pas eu dans les solitudes. Maintenant, il était entré dans la vie de tous et il restait seul. Comble d'angoisse. Le désert impitoyable, il l'avait compris. Mais la ville inexorable, c'était trop. L'heure dont il venait de compter les coups avait été un accablement de plus. Rien de glaçant en de certains cas comme l'heure qui sonne. C'est une déclaration d'indifférence. C'est l'éternité disant « Que m'importe ?» Il s'arrêta. Et il n'est pas certain qu'en cette minute lamentable, il ne se soit pas demandé s'il ne serait pas plus simple de se coucher là et de mourir. Cependant, la petite fille posa la tête sur son épaule et se rendormit. Cette confiance obscure le remit en marche. Lui, qui n'avait autour de lui que de l'écroulement, il sentit qu'il était point d'appui, profonde sommation du devoir. Ni ses idées ni cette situation n'étaient de son âge. Il est probable qu'il ne les comprenait pas. Il agissait d'instinct. Il faisait ce qu'il faisait. Il marcha dans la direction de Johnstone Wall. Mais il ne marchait plus, il se traînait. Il laissa à sa gauche St. Mary Street, fit des zigzags dans les ruelles, et, au débouché d'un boyau sinueux entre deux masures, se trouva dans un assez large espace libre. C'était un terrain vague, point bâti, probablement l'endroit où est aujourd'hui Chesterfield Place. Les maisons finissaient là. Il apercevait à sa droite la mer, presque plus rien de la ville à sa gauche. Que devenir ? La campagne recommençait. À l'est, de grands plans inclinés de neige marquaient les larges versants de Wadipole. Allait-il continuer ce voyage ? Allait-il avancer et rentrer dans les solitudes ? Allait-il reculer et rentrer dans les rues ? Que faire entre ces deux silences ? La plaine muette et la ville sourde ? Lequel choisir de ces refus ? Il y a l'encre de miséricorde, il y a aussi le regard de miséricorde. C'est ce regard que le pauvre petit désespéré jeta autour de lui. Tout à coup, il entendit une menace.